Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous adresse toutes mes pensées en cette période de confinement liée au Covid-19 qui bouleverse actuellement notre société. Les épisodes de l'Aléa déjà enregistrés vont continuer à la normale, mais vous allez également découvrir des épisodes spéciaux pour vous informer ou tout simplement vous aider durant cette période inédite. Je vous souhaite à tous énormément de courage et n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram « Low from Paris ». Je serai toujours disponible pour échanger avec vous. Angelo Follet, tu es thérapeute, compositeur, musicien et gérant d'un compte Instagram sur la peur et la vulnérabilité. Et c'est pour parler de cette émotion que je t'ai invité aujourd'hui. En effet, en 2018, tu crées le compte Instagram et le podcast Balance ta peur, qui célèbre la vulnérabilité de nombreux anonymes. Avec aujourd'hui plus de 52 000 abonnés, cet espace d'expression devient une plateforme dédiée à la connaissance de soi et à l'empowerment. Bonjour Angelo, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je vais commencer par une question très simple. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Bah, merci Laura de me recevoir en confinement.
Voilà.
Je m'appelle Angelo Follet, j'ai bientôt 35 ans. Je suis praticien en psychothérapie avec la spécialisation qui est l'analyse transgénérationnelle, donc le travail sur les mémoires familiales, l'héritage familial et l'inconscient collectif. Ça inclut aussi ce qu'on appelle la systémie. On considère que toute forme de société est un système. Ça se décline aussi par le fait d'accompagner des personnes donc en consultation individuelle, en atelier de groupe, en cercle de parole, sur un compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur. Et l'autre pratique que j'ai, qui est plus du domaine artistique, c'est la direction artistique musicale et de la réalisation et de la composition. Réalisation, c'est un petit peu comme réalisateur de film, c'est-à-dire mon rôle, c'est de mettre en forme les idées d'un artiste pour qu'à la fin, il y ait un album qui soit livré.
D'ailleurs, j'ai vu que tu avais travaillé avec Giorgio et je l'ai interviewé il y a quelques années.
Ah bon ?
Ouais,
ah,
sur un média qui s'appelle From
Paris. Ouais, on est en train de finir le quatrième album à distance.
Ouais. Super. Aujourd'hui, moi, si je t'ai invité, c'est passionnant toutes ces activités, mais c'est vraiment pour parler de cette émotion, la peur, puisqu'on est en plein dedans, cette période de confinement et de Covid-19. Tu as d'ailleurs créé un compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur, que je suis attentivement. Et j'avais envie de te demander, en fait, aujourd'hui, donc, d'où te vient ce projet ? Comment l'idée t'est venue de créer ce compte Instagram et est-ce que tu peux m'expliquer ton chemin et ton cheminement pour aller vers cette action, vers la création de ce compte ?
La peur, au départ, c'est une émotion qui a été présente la plupart du temps dans ma vie. Moi, c'était plutôt sous forme de crise d'angoisse ou de... même des fois des crises de panique où je savais pas trop ce qui se passait et j'avais l'impression que j'allais mourir. Ça a été des passages compliqués. Et puis j'ai fait 2-3 travaux personnels et des stages aussi en groupe, notamment sur la peur, qui m'ont permis d'y voir plus clair, de les identifier, de les traverser. Ça, c'est pour ma partie à moi, si tu veux. Et puis finalement, en allant à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que finalement à l'extérieur c'était aussi très présent, que les médias travaillaient beaucoup avec ce que peuvent déclencher les peurs chez les personnes qui les spectateurs, la peur a été pendant toute notre histoire, l'histoire de l'humanité, un des leviers de la guerre et de la dictature, de la manipulation des peuples. Et puis c'est aussi, de manière plus individuelle, ce qui revient le plus souvent en termes d'empêchement personnel, quoi, et relationnel. Et donc, je me suis dit, mais personne parle de ça. On parle de plein de trucs, mais voilà. Et en fait, j'étais assez frustré sur Instagram de voir des comptes qui parlaient de beaucoup de choses hyper, enfin, que moi qui m'intéressais et qui pouvaient peut-être donner des clés aux abonnés pour mieux se comprendre. Il y a beaucoup de choses sur la gestion des émotions, sur le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, etc. Mais j'ai l'impression que personne ne rentrait vraiment au cœur du sujet et à la racine de finalement qu'est-ce qui fait qu'on se comporte comme ça et qu'on ressent ça quoi. Et pour moi la peur a été vraiment le sujet qui réunissait à la fois tout ce que peuvent raconter n'importe quel film, n'importe quelle chanson, n'importe quelle relation, n'importe quel bouquin. Il y a toujours à un moment donné la peur qu'il faut traverser ou la peur qui bloque le héros, le personnage, le sujet, etc. Donc pour moi c'était assez évident qu'il y avait une parole à libérer sur ce sujet-là. Et comment libérer la parole ? Bah, en faisant la proposition que moi j'avais imaginée, c'est-à-dire créer un espace de dépôt. Déjà, c'est Balance sa peur, c'est vraiment un espace de dépôt où les gens déposent leurs peurs de manière... alors, ils ne les déposent pas de manière anonyme puisque c'est moi qui les reçois, mais ensuite, moi, je les reposte en tentant d'y dégager une problématique ou un sujet ou un thème particulier que ça m'évoque. Et du coup, en fait, ça s'appelle Balance ta peur. Finalement, on parle certes beaucoup de peur, mais on parle surtout de l'humain. Et en fait, Balance ta peur, c'est juste un biais pour aller mettre un peu de lumière sur les mécanismes psychiques et relationnels de tout être humain, en fait. Donc voilà, et derrière, il y a eu aussi l'envie de créer un podcast pour avoir un espace un peu plus long, parce que le post, forcément, c'est un texte limité. Et là, j'avais vraiment envie d'un échange, parce que l'invitation, c'est pas de rester sur Instagram, mais au contraire, justement, de se rencontrer en atelier, en conférence.
Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs peurs, peur pour l'avenir, peur de tout perdre, peur de mourir. Une question qui peut paraître surprenante, mais est-ce que toi, tu penses que ces peurs sont utiles pour évoluer
Là, c'est comme si tu me demandais si les émotions étaient utiles. Oui et non. Une émotion, que ce soit la peur ou autre chose, c'est une information. Donc, à partir du moment où j'arrive à identifier, déjà, le premier truc à identifier pour la peur, mais pour n'importe quelle émotion, c'est est-ce que c'est bien la mienne ? Parce que ça, on est tous des êtres humains et on a tous été éduqués en tant que petit enfant à imiter nos figures parentales, nos figures d'attachement et à... comprendre le langage des émotions à travers la façon dont l'autre les exprime. Donc en fait, je me rends compte petit que quand quelqu'un a peur, bah, il fait une grimace, il reste figé, etc. Il bouge plus, il parle plus. Ok, bah, ça c'est la peur, d'accord. Donc moi, en fait, c'est comme ça que je vais exprimer ma peur. Et en fait, déjà, il y a déjà une éducation et un conditionnement à ce niveau-là. Donc la première chose, c'est d'identifier si c'est bien mon émotion. Et puis après, une fois qu'on a fait ce travail, c'est d'identifier quelle émotion, et si c'est la peur... identifier à quel moment soit je ne l'ai pas exprimé en amont et du coup elle revient, soit dans ces cas-là, voir aussi ce qu'on appelle le principe de réalité en psychanalyse, c'est quelle est la réalité en fait. Est-ce que j'ai peur du virus parce que c'est justifié par rapport à mon contexte, par exemple, si on prend le contexte actuel, ou est-ce que, en fait, je suis en train d'enregistrer un podcast avec toi et je suis dans ma chambre et il fait beau et je me sens bien, je suis en digestion parce que je viens de manger. Voilà, c'est ça, en fait, l'utilité de l'émotion et donc de la peur, c'est soit de nous mettre en mouvement parce qu'effectivement, il y a un danger réel, soit de voir si je ne suis pas en train du tout d'être en danger réel là tout de suite maintenant. Ben, effectivement, le problème, c'est que si je continue à entretenir cette peur et cette émotion, il se peut que c'est parce que j'ai déjà vécu une émotion similaire auparavant que j'ai pas réussi à identifier et que j'ai pas réussi à me représenter pour pouvoir la traverser. Et du coup, en fait, c'est comme si mon système nerveux et mon système psychique recréaient l'émotion de la peur et allaient déclencher l'émotion de la peur dans des situations qui n'ont pas de rapport pour me permettre d'éventuellement évacuer le choc du passé. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'on va aussi se créer des situations dans lesquelles on va générer nos propres peurs Sauf que ça n'a pas forcément de rapport avec l'événement présent.
Et est-ce qu'on est égaux, nous, tous, face au fait de ressentir la peur ? Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas peur, ou est-ce qu'il y a une part même génétique par rapport au fait de ressentir certaines émotions, le fait de ressentir de la peur et de l'angoisse, en fait ?
Je dirais que un peu les deux, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous une expérience différente, une famille différente, un passif différent, donc évidemment les manifestations ne vont pas être les mêmes et la façon d'y réagir ou la façon de nous comporter ne seront pas les mêmes. Ce qui est certain, c'est que dans toutes les études que j'ai faites ou que j'ai lues, grosso merdo, dans l'existence, la peur de la mort et la peur de la vie sont les deux grands axes qui vont décliner toutes les autres peurs, donc avec par exemple l'angoisse de la mort donc, et de la vie, l'angoisse de la liberté et de la responsabilité, l'angoisse de l'isolement et de la solitude, et l'angoisse du sens de la vie ou de l'absurdité de la vie. Et ces quatre grandes familles, si tu veux, vont générer des peurs après sous-jacentes, comme la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, etc. Mais je dirais, pour répondre à ta question, que génétiquement, c'est possible dans le sens où il y a l'héritage familial. Donc après, génétiquement, ça peut se mesurer dans, si tu veux, les réactions du système nerveux. Par exemple, en transgénérationnel, on peut observer que si, par exemple, l'arrière-arrière-grand-mère a vécu un viol, c'est possible que la petite fille développe un cancer de l'utérus qui sera, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recette et il n'y a pas d'automatisme, mais c'est possible que derrière, en analysant un petit peu tout ça, on se rende compte que c'est une réaction hérité de l'arrière-arrière-grand-mère, et on va voir que le pic de stress généré par, je sais pas, une rencontre avec un homme ou une situation sexuelle quelconque, chez la petite fille, va être, le pic de stress va être beaucoup plus fort, et le pic d'hormones générées va être plus fort que chez l'arrière-arrière-grand-mère si toutefois elle avait été accompagnée ou suivie, quoi. Donc je dirais oui, dans le système nerveux et dans ce qui se transmet dans les maladies et dans les réponses que nous donnent les maladies sur ce qui a pas été ce qui a été des traumatismes, en fait, ce qui ont été des traumatismes.
Et est-ce que tu crois que chacun doit prendre conscience de ses peurs pour être plus fort?
Oh là, il y a plein d'injonctions là-dedans. Alors je crois pas. Pour être plus fort, je crois pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est que derrière, en fait, cette espèce de quête d'évitement de la peur ou de d'expérience de la peur, il y a souvent la recherche de souffrir le moins possible, voire de pas souffrir du tout. Pour moi, c'est très lié, en fait. Le fait de ressentir la peur, alors quand il y a un danger réel, évidemment ça nous met en mouvement et donc du coup on peut réagir et se mettre à couvert et se mettre en sécurité, mais si c'est pas le cas, ça génère beaucoup plus de stress qu'autre chose, et donc du coup ça fait beaucoup plus souffrir. Donc je crois que il faut pas identifier ses peurs si les peurs sont pas un problème pour nous. En revanche, ça a un impact sur la dose de stress et d'angoisse quotidienne que quelqu'un peut vivre, et dans ces cas-là, il peut être nécessaire de à la fois identifier la peur, mais surtout d'aller voir quel est le trauma qui est en dessous, quoi.
Et aujourd'hui, donc, on est en pleine peur suscitée par le nouveau coronavirus, qui peut sembler parfois irrationnel quand on regarde le nombre de morts que fait la grippe chaque année, presque dans l'indifférence générale. Toi, comment tu expliques la peur aujourd'hui que l'on vit face à ce Covid-19?
Pour moi, ça nous renvoie aux quatre grandes angoisses de l'existence humaine, c'est-à-dire la peur de la mort et donc de la vie. parce que vivre, c'est finalement prendre le risque de mourir, quoi. Donc, c'est une condamnation, hein. Ça, il y a énormément de lectures là-dessus, mais le traumatisme de naissance, c'est qu'en fait, on est condamné à mourir à partir du moment où l'on naît. Ce confinement et ce contexte nous renvoie, du coup, forcément, confinement veut dire solitude et isolement, donc ça nous renvoie encore une fois à la solitude et à l'isolement. Ça nous renvoie à cette espèce de liberté de responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos choix? Quel choix on veut faire aujourd'hui? Et quelle responsabilité on prend par rapport à nos choix? Et ça nous renvoie au quatrième axe des angoisses existentielles, qui est le sens de la vie, en fait. Et je crois qu'en fait, c'est... Au-delà d'être une période difficile, je crois qu'il y a aussi l'autre côté de la pièce qui est que c'est une opportunité de vraiment changer de perception et de faire des nouveaux choix, en fait. Donc, c'est en ça, pour moi, que le contexte et la présence de ce virus nous rassemblent à un endroit de la peur. Parce que justement, elle nous oblige à prendre la responsabilité, à peut-être rester en vie, à trouver du sens à notre vie. Et donc peut-être que si je me suis fait mettre au chômage forcé, faut peut-être que je me pose la question et à vivre comme on peut l'isolement ou le confinement.
Et il y a aussi une question que je me posais par rapport aux réseaux sociaux. Moi, personnellement, je me suis un peu déconnectée des réseaux sociaux parce que j'ai peur en regardant les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de leur rôle? Est-ce que tu penses que, finalement, dans des périodes comme celle-ci, et puis même dans l'absolu de manière générale, est-ce qu'ils n'alimentent pas encore plus les peurs, finalement?
Alors, j'ai envie de faire la distinction entre les personnes et les propos partagé sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux en tant que tels. Les réseaux sociaux, c'est un outil, donc c'est neutre. Il n'y a pas de... Est-ce que les médias font ce qu'ils font, bien leur taf ou pas? Est-ce que les réseaux sociaux sont anxiogènes ou pas? Non. Un téléphone n'est pas anxiogène si tu l'utilises de manière équilibrée, quoi, et saine. En revanche, c'est une fenêtre ouverte au monde. Donc, ça veut dire à toutes les subjectivités, tous les avis. C'est une fenêtre ouverte à la liberté d'expression. Et donc, je crois qu'en fonction de ce que tu suis... Enfin, par exemple, moi, tu vois, si je vais sur Instagram régulièrement, j'ai pas coupé les réseaux, etc., il n'y a rien d'anxiogène dans mon téléphone. Enfin, je regarde pas les infos, je regarde pas la télé, je ne la regardais pas avant. Je pense que là, encore une fois, ça nous renvoie à la responsabilité, un, de celui qui émet, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai envie de véhiculer comme message, et deux, celui qui reçoit, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de voir comme message, quoi. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux ou les médias.
Et aujourd'hui, toi, quels sont les conseils que tu donnerais, en fait, pour gérer toutes ces peurs du moment?
Je dirais que ce soit la peur ou d'autres émotions, finalement, l'opportunité, je crois, là, c'est que on peut un peu mieux, c'est une occasion de peut-être un peu mieux se connaître. Donc, peut-être qu'il y a des peurs qu'on cachait avant, qu'on camouflait avant dans le rythme de nos vies, avec la suractivité, la surconsommation, etc., qui aujourd'hui ressortent parce que le contexte est tel que... J'ai un peu que ça à faire de me voir et de me regarder dans les yeux. Donc, je pense que c'est intéressant, en tout cas, de profiter de ces moments-là, où s'il y a plus de moments pour certaines personnes, plus de moments seuls ou de moments libres, du temps libre, de faire un peu d'introspection, de regarder un petit peu, on peut lister ses peurs et se dire, finalement... La peur du coronavirus et la peur du confinement me montrent que, je crois que je ne pensais pas avoir peur de perdre mon boulot, mais finalement, j'ai peur de perdre mon boulot. Et puis finalement, perdre mon boulot, c'était pas tant la peur, mais finalement, j'ai peur de me tromper de voie. Tu vois ? Et en fait, je pense que ça peut être intéressant, ce temps-là, pour aller une couche un tout petit peu plus en dessous que d'habitude, ce qu'on s'autorise à faire, ou tant qu'on prend à le faire. Je crois que c'est vraiment un moment où on peut changer nos habitudes, quoi. Donc, par rapport à des conseils, je dirais simplement, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, c'est de se connecter sur des choses qui nous font du bien, tu vois. Tout le monde profite de faire des lives dans cette période, moi y compris. Il y a plein de trucs intéressants. On n'est pas obligé de faire du yoga ou de la méditation, mais en tout cas, c'est beaucoup plus disponible qu'avant. Ça prend une demi-heure, une heure dans la journée. C'est un peu aller explorer justement les médias qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Si S'il y a du temps en plus, bah, peut-être profiter d'appeler les proches qu'on n'a pas l'habitude d'appeler, parce que d'habitude on s'envoie des textos de manière discontinue mais toute la journée, ce qui ne crée pas du tout d'empathie, parce que en fait l'empathie elle ne se fait pas à travers l'écrit. Vraiment l'importance du... Je pense que Zoom est en train de tripler ses ventes là, mais l'importance de se voir et de voir, si tu veux, le visage de l'autre, ses expressions et du coup le non-verbal, c'est ça qui génère de l'empathie et qui renforce la capacité d'empathie, parce que je réalise à ce moment-là que l'autre n'a pas la même émotion que moi, et donc du coup ben, j'accepte l'altérité à ce moment-là. Voilà, il y a des gens qui ont proposé d'écrire, de faire des petits journaux, des journaux de bord, etc. Pourquoi pas ? Parce que l'écrit, l'expression, de toute façon, libère des choses. Moi, je sais que tous les soirs, ou presque, je propose à 19h des espèces de petits cours. Enfin, c'est en tout cas, je prends un thème et je l'analyse, et puis après, je fais des questions-réponses. Voilà, ça permet aux gens de se dire, ah bah tiens, c'est quoi l'empathie ? C'est quoi l'émotion ? C'est quoi... la sexualité, etc. Ou en tout cas, voilà, on essaie d'explorer des sujets comme ça. Je lis des bouquins que j'avais pas eu le temps de lire. Enfin, je fais, moi, bon, je faisais déjà du sport régulièrement et tout ça, mais du coup, j'essaie de trouver d'autres façons de dépenser de l'énergie et d'utiliser mon corps. Je sais pas. Et après, il y a la vie toute bête, c'est-à-dire faire à manger à deux ou seul ou en famille, faire l'amour si on peut, prendre le soleil quand il y en a. Ouais, en fait, moi, je pense qu'il faut revenir au basique, quoi, tu vois. Et vraiment, moi, là, ce qui ça me permet, pourtant, j'étais déjà revenu à des choses très basiques, mais ça me permet d'avoir encore moins de besoins.
Toi, est-ce que t'as... Enfin, quelles sont les angoisses qui reviennent le plus, que tu remarques, en fait, sur ton compte depuis le début du confinement
Depuis le début du confinement, je crois que ce qui remonte, c'est vraiment la... C'est marrant parce qu'avant le Covid, du coup, sur le compte, principalement, c'était les peurs qui sont liées aux relations, et notamment aux relations amoureuses. Du coup, là, ce qui remonte, c'est la peur d'être seul, la peur de se sentir... la peur de se sentir inutile, faire face à son impuissance. Il y a eu beaucoup de peur de gens qui, finalement, remettent en question leur parcours professionnel, enfin, en tout cas, leur voie professionnelle, leur choix professionnel. Ça remonte beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins qui partagent leurs peurs et qui ont forcément peur de... Il y en a même qui se disent « Merde, mais qu'est-ce que j'ai choisi comme métier ? Je prends un énorme risque finalement. » La peur de ne pas gérer le stress et du coup de ne pas pouvoir faire leur métier et donc être au service de l'autre. Ouais, c'est les grandes peurs en gros. Mais c'est surtout... C'est très pragmatique, en fait. Ce sont des peurs qui sont peut-être moins irrationnelles qu'avant. Avant, il y avait peut-être la peur d'être abandonné, alors que la personne n'est pas du tout abandonnée. Il y avait la peur de, je sais pas moi, de pas prendre sa place, alors que chaque personne prend la place qu'il prend, là où il est. Enfin, ça, c'était irrationnel, tu vois. Mais là, ça nous ramène, comme on est en survie, il y a une part de nous qui est en survie, et individuel et collectif, du coup ça nous ramène à des choses très basiques et donc à des choses vraiment importantes, genre merde, est-ce que finalement faire du marketing c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ou tiens je vois que j'ai envie d'être au service de, ah tiens je savais pas, j'avais jamais remarqué ça, ok bah peut-être que voilà, j'ai peur de finalement vendre des bagnoles par exemple, j'en sais rien, peut-être que ça fait pas sens pour moi aujourd'hui, donc c'est voilà, c'est très pragmatique, quoi.
Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, tout ça ? Enfin...
Moi, ça m'évoque plusieurs trucs. Le premier truc qui me vient, c'est que l'être humain est assez, assez intelligent et à la fois assez débile pour attendre des moments... C'est pas un jugement quand je dis débile, hein. C'est vraiment... Je me mets dedans, évidemment, et c'est plus de se dire, oh, putain, mais qu'est-ce qu'on attend à chaque fois ? On attend toujours le dernier moment, on attend toujours d'être dos au mur pour vivre, en fait, quoi. Donc ça me ramène encore une fois à cette angoisse de vivre qui est beaucoup plus présente finalement que l'angoisse de mort. On oscille toujours au quotidien entre les deux, hein. Mais je me rends compte qu'il y a la peur de vivre, donc la peur de s'individuer, la peur de notre propre croissance et du coup d'être nous-mêmes et donc de nous séparer et de sortir de la fusion. C'est hyper présent. Et là, je me rends compte qu'il y a un sens collectif qui émerge, un sens des responsabilités qui émerge, Et puis, il y a un sens de la vie tout court, quoi, qui émerge. J'ai l'impression que c'est une opportunité à retrouver de la foi, de la foi en l'humain, et plus de la foi en Dieu ou de la foi en une religion en particulier. Je crois que c'est un moment très spirituel, en fait.
J'avais envie aussi de revenir, avant de passer à des questions plus générales, sur la phrase qui introduit en fait ton compte Instagram. Ta vulnérabilité est ta force. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière ça?
Bah, c'est le principe tout simple qui est qu'à partir du moment où j'ai plus rien à protéger, bah, je crains rien, en fait. Alors craindre, c'est pas dans le sens de peur, hein, mais c'est plutôt dans le sens de... En fait, ça revient encore à l'angoisse de la vie, enfin l'angoisse de vivre, c'est que finalement on se protège de la vie, beaucoup. On se protège de la vie, du risque de vivre, parce que derrière la peur d'échouer, la peur de pas être parfait, la peur de pas être aimé, la peur de pas être approuvé, la peur de se tromper, etc. Mais il n'y a rien de pire qu'en fait de ne pas agir par peur de ça, plutôt que d'agir et de réajuster avec ce qu'on va vivre derrière. Donc la vulnérabilité pour moi c'est pas tant le fait de se mettre à poil et de se dire voilà toutes mes émotions, voilà tout ce que je ressens, faites-en ce que vous voulez, etc. La vulnérabilité pour moi c'est accepter son humanité quoi. C'est-à-dire que c'est accepter ben, voilà, que des fois je peux être un connard, je peux être jaloux, je peux être manipulateur, je peux être égoïste et que des fois ben, je peux être créatif, nourricier, au service, altruiste. Bienveillant, spirituel, etc. Pour moi, la vulnérabilité, elle est là. C'est souvent on dit, tu sais, que c'est l'idée d'être un bon partenaire pour soi-même. Ce qui implique en fait que au niveau psychique, on a toujours deux soi. C'est-à-dire que il y a celui qui ressent et celui qui valide celui qui valide l'émotion ressentie. Tu vois. Finalement, quand ces deux-là font une bonne team. Ça donne de la force en fait, mais c'est de la force de vie pour moi, c'est pas de la force dans le sens de puissance de domination. Donc effectivement la phrase est courte et pourrait porter à confusion, c'est-à-dire en quoi être fragile nous rend plus fort, mais en fait c'est pas ça, c'est en quoi accepter et vivre notre humanité nous redonne toute la puissance de vie et toute l'énergie de vie dont nous avons besoin pour grandir, en fait, quoi.
On va finir par des questions d'ordre plus général. Déjà, quelles sont les questions que l'on te pose le plus, que ce soit dans tes conférences, dans tes workshops ou sur tes réseaux sociaux?
Les questions qu'on me pose le plus commencent toutes par comment. Parce que tout le monde cherche un médicament. Alors que le principe... de ce que je fais et de ce que la plupart des thérapies en tout cas font, quand bien même j'ai pas l'ambition ni le désir de faire de la thérapie sur Instagram, hein, mais mon positionnement est thérapeutique, donc ça veut dire que je suis pas là ni pour conseiller ni pour donner une solution ou un remède. Et mon objectif en tant que thérapeute, c'est surtout d'accompagner une personne à retrouver son autonomie, en fait. Donc loin de moi l'idée de faire ses devoirs à sa place, tu vois. Donc toutes les questions qui commencent par comment. Donc c'est alors des fois c'est comment ne plus avoir peur de ça. Je dirais que la question finalement qui revient, si je généralise un peu, c'est finalement comment souffrir moins ou comment ne pas souffrir, quoi. Et derrière il y a beaucoup sur les relations amoureuses, quoi. Comment retrouver l'amour, comment aimer vraiment ou comment s'aimer mieux. Ah, il y a beaucoup ça, l'amour propre aussi. Ce que je dis souvent sur l'amour propre, c'est qu'il faut accepter qu'on a du linge sale, mais c'est un jeu de mots, mais je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est comment s'aimer mieux, comment ne pas souffrir. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est véhiculé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus qui sont liés au développement personnel, que moi, je suis pas toujours très, très à l'aise avec cette notion. Mais je la comprends et je la comprends et je à partir du moment où si ça aide déjà tant mieux, mais c'est une autre injonction, ouais. L'injonction au bonheur sous-jacente, l'injonction à la meilleure version de soi-même, l'injonction au bien-être, tu vois, le bien-être c'est quand même quelque chose, quoi. Qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui est en train de sur son lit de mort qui est en train de mourir du Covid, tu vas dire, ah bah mec, t'as raté ta vie parce que t'as pas connu le bien-être. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment donné où il faut relativiser ça. Comme dirait un de mes super potes gestalt thérapeute, il dit, de toute façon, il y a toujours un moment où ça ira bien et il y a toujours un moment où ça ira moins bien. Ça me fait marrer aussi. Voilà, je dirais, comment ne pas souffrir et comment s'aimer mieux.
Toi, quelle est ta plus grande peur?
La peur de la place de toute puissance qu'on me donne sur les réseaux. C'est hyper facile de tomber là-dedans, c'est hyper facile de passer pour quelqu'un qui a la bonne parole ou qui a raison ou qui a dit la vérité ou qui est plus intelligent ou plus que quelque chose ou quelqu'un. Et du coup, il y a énormément d'invitations à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me renvoient des messages de remerciement et c'est génial, mais qui se déresponsabilisent en même temps. Et souvent c'est marrant parce que j'insiste à chaque fois, je leur dis merci, mais moi j'ai rien fait en fait. Voilà, je propose, mais si toi tu es en capacité de l'entendre et que ça te fait bouger et que ça te fait avancer ou que ça te fait comprendre des choses, bah, tu le dois qu'à toi-même en fait, hein. Enfin, personne peut te forcer à ça et personne peut le faire à ta place. Donc voilà, donc pour moi je dirais que là où je suis le plus attentif et parfois même méfiant, c'est la posture que peut avoir un compte avec un certain nombre d'abonnés, quand bien même je n'ai pas tant d'abonnés que ça au final par rapport à d'autres gros comptes, mais c'est plus voilà, plus être attentif à ce que l'autre me renvoie et où là où moi je pourrais être totalement satisfait de la toute-puissance d'un thérapeute en ligne.
Ta maxime préférée?
Si on reste sur le sujet des peurs, parce qu'il y en a plein, hein. Mais si on reste sur le sujet des peurs, c'est extrait de. Comment il s'appelle déjà? Montaigne, je crois, qui a dit ça. Il a dit ma vie n'est qu'une suite de malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés.
Ouais, je vais réfléchir. Et de tout ce que tu as appris, si tu n'avais à retenir qu'une seule chose?
De tout ce que j'ai appris. C'est ok de ressentir des choses. Il y a un truc comme ça, de l'ordre de ressentir ce que je ressens, c'est légitime parce que je les ressens en fait. Alors après, à moi de discerner si c'est mes émotions, si c'est un truc que j'ai calqué, si c'est un truc transgénérationnel ou pas, mais c'est un petit, c'est, ça reste quand même, l'émotion reste quand même je dirais un point de repère qu'on est bien vivant, quoi.
Merci beaucoup.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.